Bonsoir Eva Bettentou de Rouge Vêtu.
Oui, bonsoir.
Oui, c'est Eva Bettentou.
Oui, c'est rouge.
Votre rendez-vous du jeudi dans Live, totale carte blanche et une question. Quel point commun entre une nouvelle amie de François Ozon et A Girl at My Door de la coréenne Jolanyang?
Jolanyang. Alors, personne ne veut contredire.
Non, mais à part vous, bien sûr. Alors, il y en a un point commun, c'est une affaire de regard et de regard qui change, Eva.
Oui, de regard qui change après une révélation. Une révélation qui a trait à l'orientation sexuelle. Une personne que l'on croyait comme ci est en fait comme ça. Que l'on croyait hétéro est en fait autre chose. Et le changement est formidablement positif dans le film d'Ozon, Une nouvelle amie. Le film est subversif, non pas parce qu'un homme se travestit, ça je dirais qu'on l'a déjà vu, mais par le regard que pose sur lui l'ami de sa femme disparue, jouée par Anaïs de Moustier. Elle est le témoin, elle est nous, elle est même l'innocence même avec ses jolies taches de rousseur. Tant qu'il n'était qu'un homme, Romain Duris, il ne l'intéressait pas du tout. Mais là, quand de temps en temps il se travestit en femme, et le temps en temps est important parce que ça ajoute au trouble, et bien là, alors là, tout est changé. À son contact, elle est transformée, elle est rayonnante, elle est radieuse. Enfin, c'est une bombe et elle est attirée. Mais elle est attirée par quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire? Par lui, par elle et lui. Et elle, elle est quoi d'ailleurs, hein? Elle est homo, elle est hétéro, on ne sait plus. On en perd son latin et c'est subversif parce que c'est dans la joie. Donc Anaïs de Moustier tourne en ce moment à Cherbourg le film de Valérie Donzelli. Je l'ai joint pendant une pause du tournage au téléphone. Il y a un peu de bruit autour d'elle. Écoutez.
Va être complètement éveillée par cette rencontre. Et puis elle, ça va lui renvoyer aussi sa féminité, son désir, sa sensualité. Donc c'est comme si une rencontre, d'un coup, lui ouvrait tout un monde. La question, c'est toujours qu'est-ce qu'elle désire? Est-ce qu'elle désire un homme? Est-ce qu'elle désire cet homme déguisé en femme parce qu'il lui évoque le souvenir de son amie qui est morte? Il y a des allers-retours entre le masculin, le féminin, entre l'amitié, l'amour. Tout ça est très, très mêlé, très entremêlé. Et c'était passionnant pour moi à jouer parce que ça révèle toute la complexité des rapports et des relations entre les gens.
Donc ce qui crée le trouble, c'est quoi? C'est le fait que ce n'est pas défini?
Oui, je pense que c'est les allers-retours qu'elle fait entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que cet homme, pour elle, c'est un vertige. C'est la découverte d'une liberté immense qu'elle ne s'accorde pas du tout dans sa vie personnelle. Donc, à la fois, c'est un vertige qui lui donne de l'élan, qui lui fait du bien. Et puis, à des moments, c'est impossible pour elle d'y aller. Je trouve que le film interroge sur la capacité qu'on a à accepter la liberté d'un autre. Et puis, c'est vrai qu'on a envie que ces personnages s'aiment. C'est ça qui est beau. On s'en fiche que ce soit un homme déguisé en femme. On se dit juste ces deux êtres humains qui se sont fait du bien, qui se sont aidés à vivre.
Alors, un autre film, A Girl at My Door, ça a été tourné à l'autre bout du monde, en Corée. Je vous entends penser, enfin, un film coréen. Oui, enfin, il arrive.
Enfin, un film coréen.
Voilà, vous l'avez dit. C'est un premier film de jeune femme très brillante qui s'appelle Julie Jung. C'est un pseudo-polar, une femme commissaire émutée dans un village paumé. Un flic, donc, dans un milieu rétrograde et macho, mais qui, néanmoins, elle est en position, elle, de donner des ordres aux hommes. Et puis un jour, cette femme va être touchée par une fillette maltraitée. Elle va outrepasser son rôle de commissaire, elle va l'accueillir chez elle, elle va l'héberger, elle va l'entourer. Nous en sommes là dans le film et ça fait un bon moment que le film a commencé, on est tranquille dans le film et on découvre, la cinéaste nous montre que la commissaire est lesbienne. Nous, c'est-à-dire tout le monde, les personnages du film, et nous, spectateurs, nous allons changer de regard. Le regard change donc, d'abord pour les personnages, ceux du village, mais quand le film est montré en Corée. La Corée, nous m'a expliqué Julie Jung, est encore un pays où les gens ne disent pas leur homosexualité. Et la lecture du film va être totalement modifiée par cette révélation. Écoutez-la.
Quand le film est sorti donc en Corée, j'ai participé à beaucoup de débats avec le public à la fin du film. Et le plus souvent, les questions qu'on me posait, ou en tout cas ce que les spectateurs me disaient, c'est que le film avait un côté donc homosexuel, un code homosexuel en fait dans le film. Et pourquoi j'avais tenu en fait à mettre ces aspects-là. Et moi, à chaque fois, ce que je répondais, c'est que le personnage principal était homosexuelle, il se trouvait qu'elle était homosexuelle, mais que je n'avais pas mis de code ou de côté d'aspect homosexuel particulier dans le film. Et les gens avaient l'impression qu'il fallait interpréter le film ou la relation donc, du personnage principal de façon particulière ou d'une vision homosexuelle. Et à chaque fois, je disais que non, il se trouvait juste que le personnage féminin était homosexuel.
Comme si, en quelque sorte, ça avait contaminé, entre guillemets, tout le film. Alors, on pourrait dire c'est la Corée, pays moins en avance, je dirais. Mais le film joue sur tous les publics, parce qu'elle le veut, parce qu'elle veut justement créer une ambiguïté. Donc, effectivement, on va regarder la relation de cette femme qui était maternante jusqu'à présent avec cet enfant, en disant, mais est-ce qu'il y a un truc qui est louche? Réponse.
Oh. Oui.
Expliquez.
Oui, tout à fait. En fait, on comprend que le personnage principal est homosexuel à partir de la moitié du film environ. Et avant, justement, j'avais fait exprès de ne donner aucune information. Et cet aspect-là était justement très important, car je voulais que le spectateur suive le personnage principal qui rencontre justement Dohi. Et après, une fois qu'on sait donc que c'est une homosexuelle, le spectateur, en fait, prend connaissance en fait, des risques qu'elle encourt, des risques existants dans cette relation, et on regarde le film alors d'un autre œil, alors qu'avant, quand on était sans préjugés, avant le fait qu'on sache qu'elle était lesbienne, on avait en fait justement un regard qui était différent.
On la voyait comme une bienfaitrice, comme une mère possible, et tout d'un coup, vous nous dites « Ah, et est-ce que c'est pas ambigu qu'elle prenne un bain avec elle ?» Voilà, vous jouez. Mais quand on joue avec le spectateur, c'est pour le réveiller, c'est pour mettre en danger ses préjugés.
Oui, merci, justement, effectivement, c'est ce que je voulais faire. Ces sentiments ambigus, justement, étaient importants. Et je dirais que mon principe, si je peux parler de principe, c'était que, justement, à chaque sentiment dans le film, les scènes ne soient pas exagérées. C'est-à-dire que les sentiments sont vraiment des sentiments qu'on peut, ou des réflexions que le spectateur peut vraiment avoir au vu de certaines scène.
Je précise, hein, quand elle répond oui au début de sa réponse, c'est oui, je joue avec les préjugés.
Oui.
Pas oui, voilà, hein, mm-hmm. je veux préciser. Alors, je vais faire un enchaînement impossible. Je pourrais faire des contorsions pour vous présenter cet extrait d'interview de Benicio del Toro que j'ai rencontré pour Paradise Lost. Je pourrais le raccrocher au thème du regard en vous disant que quand je lui ai parlé d'un certain sujet, ses yeux bridés, vous savez, à demi fermés, qui font tout son charme de bad guy, se sont tout d'un coup ouverts, mais c'est quand
mais
même
non,
trop téléphoné.
Ouais.
J'ai juste envie de vous faire écouter cet extrait.
D'accord.
À un moment dans l'interview, donc, je le branche sur un sujet dont je sais qu'il intéresse, sur un cinéaste dont je sais qu'il l'aime beaucoup. Qui est cet homme, Jean-Luc Godard ?
I love Godard.
J'adore Godard.
Why do I like him ?
Pourquoi je l'aime ?
I think 'cause he breaks.
Parce qu'il casse les règles.
Breaking every rule still makes us think, and
il veut nous faire penser et en même temps nous distraire.
I just think that he makes movies kind of like.
Il fait des films comme il les transforme pour en faire autre chose. C'est pas juste des films. Il peut les rendre comme une sculpture, comme une peinture. Il peut le rendre un building. C'est une source d'audace sans fin. Il essaye sans cesse de se réinventer, de faire quelque chose de nouveau. Et un peu comme Bob Dylan. Il est incroyable.
You know, sometimes it might work better than
quelques
other
fois,
times,
ces films marchent, quelques fois moins bien.
Truthful.
Mais chaque
it's
fois, c'est sincère.
Kind of like committed.
Chaque fois, c'est un engagement.
There's always a logic.
Il y a une logique
behind it
derrière ces
even
films.
If I don't
même
understand,
si moi, je ne la comprends pas.
I know.
Lui, il en a une.
I think Godard, is that kind of like a
Godard est ce genre de cinéaste, il est unique.
Unique, really. But he's singing, he's playing his own
mais
song.
Il joue sa propre partition.
Like he must have a really strong
il faut être très fort à l'intérieur pour faire ça.
He must be a very strong man. Kind of like Bob Dylan must be
comme
a very,
Dylan
very strong
doit être très fort.
Person.
Voilà, c'était
ah,
joli.
Comme ça.
Mais
bah
c'est
oui.
beau à entendre.
Vous embêtez pas dans la vie, hein, Eva Bétan.
Non, je trouve qu'il en parlait magnifiquement.
Il
en avait rien à faire de la promo du film. Et sur Godard, il a fallu qu'on nous interrompe parce qu'il voulait plus se taire.
Merci beaucoup, Eva Bétan. Rendez-vous la semaine prochaine. On vous attend parce qu'il y a Benicio Del Hollande qui lui-même attend les commentaires d'Acropole.